Double Monde Podcast.
L'action des lanceurs d'alerte est essentielle dans notre démocratie car ils portent à notre connaissance les dérives et les abus de ceux qui se croient au-dessus des lois.
Irène Frachon et le scandale du Mediator, Edward Snowden et la surveillance d'Internet par les États-Unis, Antoine Deltour et les LuxLeaks, Frances Haugen et les Facebook Files, de célèbres lanceurs d'alerte et d'autres moins médiatisés, ont permis de révéler des faits portant gravement atteinte à l'intérêt général, notamment dans les domaines de la santé, de l'environnement, de la défense, des finances ou de l'Internet. Marine Martin fait partie de ces nouveaux combattants de la vérité. En 2015, elle réussit à faire éclater le scandale de la dépakine dans la presse, ce médicament anti-épileptique accusé de provoquer des malformations et des handicaps chez les enfants lorsqu'il est pris pendant la grossesse. Voici son histoire. Bienvenue dans Je te crois, saison 3, le podcast qui donne la voix à ceux dont la parole est mise en doute. N'hésitez pas à vous abonner sur toutes les plateformes d'écoute et profitez-en pour nous mettre des étoiles plein les yeux et nous laisser un petit commentaire sur Apple. Retrouvez également toutes nos actus sur les réseaux sociaux et pour vous faciliter la vie, on vous a mis les liens en bio.
Donc je suis Marine Martin, celle qui a lancé l'alerte dans le scandale de la dépakine, maman de deux enfants handicapés suite à la prise du médicament pendant la grossesse. Et j'ai fondé l'association de victimes, la PESAC. Je suis plutôt issue d'un milieu favorisé. Mon père était ingénieur dans la banque. Ma mère a été longtemps femme au foyer, mais de formation psychologue. Mes parents avaient fait beaucoup d'études. Mon père avait fait maths sup, maths spé, ma mère psy. Donc moi, j'étais l'aînée d'une famille donc de trois enfants. J'étais un peu le vilain petit canard de par cette épilepsie qui a été révélée à l'âge de 6 ans, en fait. Et on va me placer sous des paquines. Il n'existait pas énormément de traitements à l'époque. Il y avait quelques autres antiépileptiques comme le Gardénal ou le Tegretol, mais c'était déjà le plus répandu et donné à l'époque. Donc, je sais que très rapidement, quand même, ma mère va observer des effets secondaires, comme notamment l'énurésie, c'est-à-dire que je faisais pipi au lit la nuit, des difficultés scolaires. Alors que donc mes parents étaient plutôt surdiplômés, mes frères et sœurs n'avaient aucune difficulté scolaire. La prise de dépakine va très clairement me ralentir pas mal le cerveau. Et ce qui fait qu'en CM1, par exemple, je vais redoubler. Donc je vais avoir une enfance un peu à l'écart, à la marge peut-être de mes frères et sœurs qui, eux, montraient tout de suite des capacités intellectuelles assez vives et qui vont d'ailleurs, enfin mon frère qui n'a que 3 ans de moins que moi, qui va sauter une classe. Je m'en rendais pas compte, en fait. Je comprendrai tout ça qu'en 2010, quand je vais arrêter la dépakine, quand je vais arrêter de vivre sans ce traitement-là, et que je sentais un fond un peu dépressif ou des choses comme ça, mais sans vraiment réussir à le solutionner. J'avais vu des psys, etc. Alors que dans l'effet secondaire de la dépakine, il est clairement dit que ça peut avoir un effet comme ça, un peu dépressif, que ça agit sur le cerveau, puisque ça s'est donné aussi pour soigner les troubles bipolaires. Donc forcément, ça agit sur l'humeur. Mais ça, aucun médecin va mentionner la possibilité du lien avec la prise du médicament, quoi. Et à aucun moment, finalement, on va me proposer, parce qu'au fur et à mesure que les années vont passer, des antiépileptiques vont arriver sur le marché et potentiellement des alternatives thérapeutiques. Donc, et à aucun moment, on va me proposer un autre traitement que celui-ci.
En fait, on a souvent l'image de l'épilepsie uniquement liée à la crise généralisée, avec la personne qui convulse. Mais en fait, il y a plein de manifestations différentes de l'épilepsie, et notamment chez les enfants. En fait, la crise d'épilepsie, c'est un dysfonctionnement électrique passager dans le cerveau. Le reste du temps, le cerveau fonctionne normalement. Donc effectivement, il n'est plus là. Donc encore une fois, il n'y a pas que la crise généralisée qui effectivement fait peur et qu'on associe à la folie.
Alors, il va y avoir quand même quelques grandes étapes, c'est-à-dire que donc moi, je suis née à Toulouse. Et à l'âge de 11 ans, mes parents vont déménager à Angers, près de Nantes. Et lors de ce déménagement-là, ma mère va demander un arrêt de traitement. Donc effectivement, entre l'âge de 11 ans et 16 ans, je vais arrêter la dépakine. Et bizarrement, scolairement, ça va aller mieux. Jusqu'à ce qu'à l'âge de 16 ans, je décide, parce que j'avais déjà, j'aime les voyages, j'avais déjà envie d'aller voir ailleurs. Et donc, je vais partir en Italie, dans un camp. Donc, la nuit va être, je ne vais pas beaucoup dormir. Et là, je vais faire pour la première fois ma crise d'épilepsie grand mal. Donc, le seul souvenir, c'est que je me réveille dans un hôpital italien où on parle une langue que je ne comprends pas. Je savais que j'étais épileptique puisque je me souvenais quand même avoir pris ce médicament au goût si amer puisqu'à l'époque, il était en solution buvable. Et après, j'ai connu un petit peu les premiers comprimés. Mais c'est là où je sais qu'on va appeler ma mère en France et elle va expliquer qu'effectivement, j'ai déjà été traitée pour de l'épilepsie. Et à partir de là, je vais être remise sous des paquines. J'ai su à ce moment-là que le traitement, il était à vie, que je n'avais pas à me poser la question de l'utilité ou non du traitement. C'était parfaitement clair, quoi, hein. Et puis après, effectivement, quand j'ai rencontré mon mari au lycée, lors d'un voyage en Grande-Bretagne cette fois-ci, c'est vrai que tout de suite j'ai parlé de mon épilepsie parce qu'elle m'obligeait, vous voyez, c'était tabou sans l'être. Je savais qu'il y avait certaines choses qui m'étaient interdites, la plongée, les sports trop importants ou avec des risques de manque d'oxygénation, mais j'arrivais grosso modo à avoir une vie normale, quoi. Je voyais bien que dans les études je peinais plus parce que j'ai fini par avoir mon bac à 20 ans, donc quand il s'est agi de faire nos études supérieures avec mon mari, il m'avait dit, lui, voulait faire de l'international. Donc, c'est vrai qu'on se voyait vivre à l'étranger, pas mal. On aurait été sûrement être expat s'il n'y avait pas eu tous ces soucis. Mais très rapidement, il me dit, pour mes études, c'est soit Strasbourg, soit Montpellier. Je lui dis, ah, Montpellier, le sud, le soleil. Donc, voilà, on va se retrouver à finir nos études à Montpellier. Et moi, je suis quelqu'un de très organisé. C'était très clair, très planifié dans ma tête. Déjà, je voulais porter le même nom que mes enfants. Donc, pour moi, c'était important de me marier, ce qu'au départ, mon mari ne voulait pas. Mais je lui dis, écoute, c'est soit ça, soit sinon, ils porteront mon nom. Donc, on s'est mariés. Là aussi, j'ai négocié dur. Et très clairement, derrière, les enfants étaient prévus en suivant. D'ailleurs, enfin, on les a annoncés au mariage. On se mariait pour fonder une famille. Donc, on s'est mariés en 98 et Salomé est née en 99.
Aujourd'hui, les victimes d'un autre médicament qui est la dépakine. Ce traitement contre l'épilepsie qui entraîne de graves séquelles pour l'enfant est également au cœur d'une instruction pénale depuis quelques mois.
Ce sont effectivement des dossiers très particuliers d'enfants qui souffrent de malformations physiques d'une telle gravité qu'après la naissance et après quelques heures, quelques jours, quelques semaines, ils décéderont du fait de leur malformation.
La grossesse, c'est pas un moment qui a été pour moi l'extase, hein, très clairement. Je me sentais lourde, j'avais les chevilles qui avaient enflé, j'avais pris énormément de poids parce qu'il y avait de l'eau, de la rétention d'eau. J'avais été très très bien suivie parce que j'habitais Montpellier, qui est quand même super connu pour sa fac de médecine. J'avais posé la question au neurologue, qui est l'initiateur des prescriptions de dépakine, qui m'avait dit « Ne vous inquiétez pas, Madame Martin, prenez de l'acide folique pendant la grossesse, avant et après la conception, et tout ira bien. La seule malformation, c'est une malformation de la colonne vertébrale qui s'appelle le spina bifida, mais vous allez être suivie par l'hôpital qui a l'habitude des grossesses à risque, avec un gynécologue spécialisé. » Et le gynécologue a confirmé les dires du neurologue et le médecin généraliste qui faisait souvent le renouvellement d'ordonnance a dit exactement la même chose. Donc, j'ai été très bien suivie. J'ai vu la meilleure échographe de Montpellier de l'époque en 98-99 qui a regardé tout ce qui est colonne vertébrale, largeur du cou, etc., etc. Donc, on sentait bien qu'il y avait une recherche de malformation. Mais tout était bien et je m'étais préparée à une interruption médicale de grossesse s'il y avait eu cette espèce de spina bifida. Alors, c'est la colonne vertébrale qui n'est pas terminée. Bon, OK. Mais quand Salomé est née, alors l'accouchement qui avait été déclenché après terme, puisque Salomé devait naître le 1er juillet, or le 5, elle n'était toujours pas là, j'ai fait une hémorragie placentaire. Donc, j'ai perdu énormément de sang. Donc, ça a été la catastrophe. Cet accouchement à l'hôpital de Montpellier en 99. Salomé a été tout de suite placée sous une couveuse parce qu'elle était épuisée. Au bout d'un moment, mais ça a été très très long, on m'a remontée dans la chambre. J'étais très fatiguée, très affaiblie, Salomé aussi. Et le lendemain, ayant perdu beaucoup de sang, ça semblait logique. La concentration plasmatique de dépakine n'était pas bonne. Mais ça n'est passé dans la tête d'aucun médecin. Et j'étais en train de changer la petite sur la table allongée quand je suis tombée, j'ai convulsé. Et c'est les bruits des coups dans le mur de mes convulsions qui ont alerté la voisine de chambre, parce que j'étais dans une chambre seule, qui appelaient les infirmières et qui ont trouvé la petite sur la table en langée, moi convulsant au pied. Donc j'ai dit, bon, c'est ça un accouchement bien préparé à l'hôpital de Montpellier. J'étais furieuse. Donc voilà, je voulais des enfants approchés parce que la période couche, je trouve que c'est fatigant. On est tout le temps en train, ils font tout le temps la sieste, on ne peut pas aller sortir, voilà. Et donc assez rapidement, en 2001, on a mis en place le deuxième bébé, quoi, et aller suivre sûrement le suivant après. Et en fait, donc, pareil, avec les mêmes interlocuteurs, sauf que cette fois-ci, j'ai dit à mon gynécologue que je consultais en privé, je ne veux pas aller accoucher à l'hôpital de Montpellier, je veux que ce soit vous qui fassiez l'accouchement. Cette fois-ci, le gynécologue s'est mieux occupé de moi. Il m'a fait accoucher le 26 mars 2002. J'accouche, et là, ils se précipitent tous sur le bébé. Ils le regardent tous sur tous les angles. Qu'est-ce que c'est que cette malformation génitale? Un hypospadias, jamais entendu parler, bien sûr. C'est une malformation de la verge. Et là, pareil, on me dit, ah, mais ça existe dans la population. Peut-être qu'il y en avait dans la famille. Je dis, on m'en aurait parlé, je ne suis pas au courant. Il dit, mais vous inquiétez pas, ça s'opère et tout. Je dis, ouais, quand même, j'aimerais bien savoir. Enfin, voilà. Donc, je les ai vus bien s'affairer autour de Nathan. Voilà. C'est qu'avec la malformation de Nathan que je vais me poser des questions, on va dire. Salomé était gauche, elle était maladroite. Vous voyez bien qu'il y avait un retard un peu psychomoteur, mais quand elle est née bébé, elle ne supportait pas le lait maternisé, ni elle n'arrivait pas à sucer. Enfin, je voulais lui donner le sein et elle n'y arrivait pas. Donc, c'était compliqué. Bon, j'apprendrai après qu'il y avait souvent des problèmes gastriques en lien avec la dépakine, en fait. Voilà. À ce moment-là, ma belle-mère adore me découper plein d'articles dans la presse et elle me fait passer à ce moment-là un article du Midi Libre, hein,